Bah, il le justifie de façon assez traditionnelle, que ce soit la croissance économique ou d'autres phénomènes économiques, l'intervention de l'État est justifiée en fonction de ce qu'on appelle de défaillance de marché. On considère que lorsqu'on laisse faire les forces de la concurrence, les forces de marché, on n'aboutit pas forcément aux meilleurs résultats possibles. Et c'est vrai dans le domaine de la croissance économique. La croissance économique, d'abord, je crois qu'il faut la définir un tout petit peu, c'est vraiment un phénomène qui est marqué par l'augmentation continue sur très longue période, hein, 50 ans, un siècle, 2 siècles, de la production par habitant, hein, du revenu par habitant, du PIB par habitant. Donc on vise cela lorsqu'on parle de croissance et non pas de phénomène très conjoncturel. Donc par rapport à ce phénomène de croissance, ce qui est derrière la croissance, c'est d'abord l'innovation. Le fait qu'on crée de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, et derrière, il y a l'innovation. Innovation technique, technologique, organisationnelle. Et dès qu'on parle de connaissances ou de nouvelles idées, on a tout de suite en tête que, il se peut que le marché, les entreprises, n'innovent pas assez parce que la production de connaissances crée ce qu'on appelle des externalités positives. Le fait que lorsqu'il y a une nouvelle connaissance qui est créée, on va s'en servir pour produire de nouvelles connaissances. Donc ce phénomène de la connaissance qui s'appuie sur la connaissance, on sent intuitivement qu'il faut que on sous-estime sûrement, le marché sous-estime sûrement la quantité de connaissances qu'il faut produire. Il faut en produire certainement plus parce qu'elle permet encore de produire encore plus de connaissances. Donc ce mécanisme-là n'est pas internalisé, n'est pas pris en compte par les entreprises lorsqu'elles font des calculs économiques. Donc l'État, eh bien, peut intervenir pour subventionner la connaissance. C'est par exemple le sens du crédit impôt recherche. On va subventionner la recherche pour essayer de stimuler la recherche, parce qu'on pense qu'elle se fait à un niveau insuffisant dans le cadre des entreprises. Ça, c'est un premier point. Dans la production de connaissances, il y a aussi l'idée que souvent, c'est un bien public. C'est-à-dire qu'un bien public qui va servir à tous, qui n'est pas forcément, on ne peut pas forcément exclure les individus de l'utilisation de ces connaissances-là. Donc peut-être, sûrement, on peut le comparer à un bien public traditionnel, et ce bien public doit être produit par l'État. C'est le sens de la recherche fondamentale, qui est le domaine du CNRS en France, qui est donc une activité d'État, hein, qui est pour essentiellement financée par l'impôt, qui est un bien libre, qui n'est pas tarifé ensuite, mais qui permet aussi d'être produit sur une grande échelle. C'est donc un point aussi important. On peut aussi parler des problèmes de coûts de transaction. Coût de transaction, c'est ces problèmes qui se posent lorsqu'il faut faire un échange. Et en particulier, en amont de tout, ce qui est très important pour la croissance, c'est de définir ce qu'on appelle les droits de propriété. Dans le domaine de la croissance, on accumule, on investit, on innove, on fait une dépense aujourd'hui. Et cette dépense aujourd'hui, c'est dans l'espoir, bien sûr, d'avoir des profits, des revenus dans le futur. Qu'est-ce qui garantit la propriété de cette connaissance demain? Eh bien, ce qui la garantit, eh bien, c'est l'invention et la protection par ce qu'on appelle donc les brevets. Et donc, le brevet, la forme juridique derrière sous-jacente, c'est une intervention de l'État, à laquelle on ne pense plus vraiment, mais qui est essentielle dans le phénomène de la croissance pour garantir la propriété intellectuelle et qui permet effectivement de stimuler la croissance. On a aussi en tête qu'on peut, peut-être qu'on sous-accumule. C'est-à-dire quoi sous-accumuler dans le phénomène de la croissance? Ça veut dire qu'on investit, les entreprises n'investissent pas assez. On n'épargne pas suffisamment parce qu'on n'arrive pas à passer des contrats financiers avec, entre par exemple les seniors et les nouvelles générations qui ne sont pas encore sur le marché, qui ne sont pas encore nés. Donc par rapport à ces questions-là, de contrat incomplet, ce qu'on appelle, eh bien, l'État peut intervenir par un système qui est le système de retraite par répartition, qui est finalement une intervention publique pour stimuler l'accumulation, hein, et l'épargne dans un monde qui finalement sous-accumulerait. Donc on accumulerait, hein, plus grâce au système par répartition. Donc on a bien sûr la question de la fiscalité correctrice. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un système qui introduit des externalités négatives. On a parlé tout à l'heure d'externalités positives, mais on peut aussi avoir des externalités négatives. C'est quoi une externalité négative? C'est la pollution. C'est l'utilisation de ces ressources naturelles dans un monde qui croît. On utilise beaucoup de ressources naturelles. On pollue, les entreprises polluent certainement trop. L'exercice d'une externalité négative, une influence négative sur les activités des autres, soit sur les consommateurs, soit sur les entreprises. Et il faut donc corriger. Et la fiscalité est un moyen de corriger, de pénaliser. De faire ce qu'on appelle une fiscalité verte, dont on parle souvent, qui permet de pénaliser le pollueur et de faire en sorte qu'il paye polluent moins, donc ils produisent moins, qu'ils consomment moins d'énergie polluante, qu'ils en émettent moins dans l'environnement. Et donc la fiscalité est aussi un moyen de corriger ces défaillances de marché qui se produisent au cœur du phénomène de la croissance. Donc on a toute une série de défaillances qui sont intrinsèques, je dirais, au phénomène de la croissance, que l'État peut corriger. On peut aussi penser à des questions qui est presque centrale dans le phénomène de la croissance, c'est cette question que la croissance, les entreprises qui innovent, ont tendance à occuper une position dominante sur le marché. Donc elles ont innové, elles sont presque en question de monopole, elles ont cherché à cela, c'est le ressort de la croissance, dans une vision très schumpeterienne. Cette situation de monopole, qui est le résultat de la création, peut bloquer la nouvelle création. On a presque en tête ici l'exemple de Microsoft aux États-Unis qui était devenu en situation de trade de monopole et que les autorités de la concurrence, et c'est une forme d'intervention de l'État, je dirais d'agir sur la concurrence, de démanteler les monopoles à un moment donné pour permettre les nouvelles innovations. Donc on voit toute une série de défaillances au cœur du phénomène de la croissance qui peuvent être corrigées par différents instruments de l'État sur des choses très 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 générales du domaine, je dirais, de la loi, de la réglementation, jusqu'à des choses beaucoup plus microéconomiques, particulières de la fiscalité, ou même de la production. L'État peut même prendre en compte la production lui-même de certaines dimensions au cœur de la croissance, comme par exemple la recherche. Les spécificités de l'économie française, je dirais que, pour dire aujourd'hui, c'est qu'il existe un certain essoufflement de la croissance en France. Elle se mesure d'abord par rapport à cet indicateur de la productivité qui est essentiel. On a dit que la croissance était, et c'est essentiellement, l'augmentation continue du revenu par tête. Et de manière sous-jacente, c'est en fait l'augmentation continue de la productivité du travail. La productivité du travail en France est encore relativement élevée, et elle se compare assez bien à la productivité dans d'autres pays développés, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, dont on parle souvent. On était même, au début des années 2000, en situation assez comparable avec l'Allemagne, assez proche des États-Unis. On peut dire que les années 2000, les débuts, donc les périodes assez récentes, ont marqué un certain essoufflement de la productivité en France. Ce qui marque effectivement un certain essoufflement du modèle de croissance français. Alors, on parle bien sûr de difficultés dans l'innovation, les entreprises n'innovent pas assez, elles n'investissent pas assez dans de nouvelles machines, qui sont souvent le vecteur du progrès technique. Le problème aussi du capital humain, de l'investissement dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, est aussi un problème spécifique à l'économie française. Donc, sur le côté de l'investissement des machines, l'investissement dans l'éducation, sur l'innovation, aussi sur, je dirais, l'entretien des infrastructures publiques, sur l'État qui n'est pas forcément aussi engagé qu'il était dans le domaine de la recherche fondamentale, par manque de moyens. On voit que sur l'ensemble des segments qui font la croissance sur longue période, le modèle français s'essouffle, souvent parce qu'il manque de moyens, l'État manque de moyens, c'est-à-dire que les ressources sont accaparées par d'autres dimensions, le domaine de protection sociale en particulier, pour faire face aux grands risques de la vie, sur la vie, les assurances vieillesse, santé, ainsi de suite, qui accaparent beaucoup de moyens. La montée des prélèvements obligatoires a été utilisée surtout pour faire face à la montée des protections sociales. Et c'est vrai que tout cet argent qui va de ce côté-là n'est plus disponible pour la recherche, l'éducation, les infrastructures publiques. Et pour financer d'ailleurs cette politique sociale, eh bien, on fait des prélèvements obligatoires très forts, et une fiscalité qui, en retour, pèse sur l'innovation. Parce qu'il ne faut pas oublier un point très important, c'est que lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on innove, lorsqu'on s'éduque, on veut bien sûr avoir un retour. Et si effectivement ce retour est trop plombé par une fiscalité qui est trop lourde sur l'épargne, trop lourde sur ceux qui innovent, eh bien sûr, on tue les moteurs de la croissance.